Tout comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Mon pays est un vivier d'histoires passionnantes, dit-il. Nous ajouterons, heureusement que le cinéma est là pour nous les raconter. Alors oui, en Iran, la télévision peut remplacer le tribunal et le public incité à voter pour ou contre la peine de mort. C'est l'histoire folle du jour. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Cette émission de télé-réalité existe vraiment et lui, la mise en scène. Bonjour Massoud Barchi.
Bonjour.
En Iran, une jeune femme tue accidentellement son mari, elle est condamnée à mort et la seule personne qui puisse la sauver de cette condamnation, c'est la fille de la victime. La vie et la mort d'un être comme sujet d'un show télévisé, mis en scène dans votre film Yalda, la nuit du pardon. Il sort mercredi prochain. Pour commenter et encadrer ce film, une avocate pénaliste. Bonjour Laure Hennick.
Bonjour.
Vous connaissez bien l'appareil judiciaire français et vous découvrez comme nous ce film. On attend vos réflexions notamment sur cette médiatisation de la justice. Enfin, les sorties de ce mercredi entre un pays qui se tient sage et une femme qui s'est enfuie. Billy Holiday, Cagille Lyonnaire, Ida Lupino et une sacrée reprise. Les trois jours du Condor, c'est parti.
Nasser Zia, 65 ans. PDG d'une agence publicitaire de Téhéran il y a 4 ans, a épousé son employé. Un mariage temporaire.
Mariam Komidjani,
amie et collègue de Mona Zia, fille unique de Nasser. Un soir de l'automne dernier, ce mariage se brise. Après une semaine d'affrontement, la jeune femme enceinte pousse son mari vers la mort. Au bout de cette rue, dans cet immeuble, résidait l'homme tué en octobre dernier par son épouse. C'est là qu'a eu lieu le terrible drame. Mariam Komidjani, qui a causé la mort de son mari, avoue qu'elle a dû choisir entre l'enfant qu'elle portait et son mari.
Résumé des faits à la télévision, une jeune femme, Mariam, a tué accidentellement son mari. Résumé dans la voix d'un présentateur de télé, c'est le point de départ de votre film Yalda, la nuit du pardon, Massoud Barchi. Vous aviez en tête le sujet, donc une femme condamnée à mort pour avoir tué son mari. Et puis, vous avez découvert l'existence de ce show télévisé.
Oui, en fait, je me souviens quand j'ai vu pour la première fois cette émission, j'étais tellement bouleversé que j'ai décidé de raconter mon histoire au sein d'un épisode de cette émission.
C'était une émission populaire en Iran ?
C'était l'une des plus populaires, oui.
Et existe-t-elle encore ?
Non, en fait, heureusement, juste après mon film, ils ont arrêté de produire cette émission.
Comme quoi le cinéma sert à quelque chose.
Voilà.
Comme quoi il faut aller voir les films pour faire bouger la société.
J'espère.
En Iran, en tous les cas, mais peut-être ailleurs aussi.
Je pense que ils ont jamais dit que c'était grâce ou à cause de mon film, mais bon.
Vous le vivez comme une victoire, ça ou pas?
J'en suis très très fier parce que pour moi, franchement, ce genre de sensualisation des invités, mais aussi des millions de spectateurs, et aussi cette manipulation qui est la quintessence de chaque émission télé-réalité était insupportable. Et d'ailleurs, je voulais jamais critiquer les bonnes intentions parce qu'il y avait aussi le pardon qui est vraiment le sujet principal.
Alors,
de mon film aussi.
Ouais. On va s'arrêter sur le pardon avec Laure Hennick. Justement, c'est quand même fou, Laure Hennick, de donner le droit de grâce à la famille de la victime. C'est impensable.
Le pardon, c'est pas une notion qui existe en droit français.
Non.
Et les parties civiles, en réalité, d'ailleurs, sont tout à fait absentes en général dans les droits occidentaux. Elles n'ont même pas voix au chapitre. Elles sont absentes du procès pénal. Et en France, elles n'ont pas le droit, mais véritablement, de dire un mot sur la peine. Elles peuvent, par principe, demander une condamnation. Elles peuvent demander une indemnisation. Mais le fait d'entrer en voie de condamnation, mais ne rien dire sur la peine. Donc il y a une absence en droit français qui tranche totalement avec ce qu'on peut voir dans votre film, qui est un véritable cauchemar de justice. Moi, je suis restée incrédule en voyant ce film, qui pose des questions très fines, avec pourtant des scènes tout à fait absurdes, et où on se dit que vraiment la réalité dépasse tout à fait la fiction.
Ce pardon, il vient de la religion. Est-ce que la religion est fondamentale en Iran, donc elle influe sur la justice?
En fait, ce pardon, c'est un peu la décision personnelle de la famille de victime.
Certes.
Et c'est juste pour les cas non intentionnels, et les morts accidentelles, en fait, qui est acceptable. Dans d'autres cas, parce qu'ils catégorisent les cas de mort en plus de 80 cas différents.
Mais accorder son pardon, c'est bien vu de la part des religieux.
Oui.
C'est quand même un acte religieux quelque part. C'est-à-dire, c'est être en conformité avec la religion, avec.
Exactement. En fait, c'était la raison pour laquelle il produisait cette émission, qui faisait la promotion de la culture de pardon, qui est quand même une notion très très religieuse. Et ça existe d'ailleurs partout, dans toutes les religions, le pardon, c'est un peu basique.
Bien sûr.
Ouais.
Et il faut dire aussi qu'une fois que le criminel est pardonné par la famille de victime, la loi, en fait, exige qu'il va en prison entre 3 et 4 et 6 ans pour l'aspect public ou social de crime.
Le parallèle, ce serait le droit de grâce, Laurénique.
Oui, mais alors le droit de grâce,
c'est le pardon d'ailleurs. C'est pas un pardon,
non.
Au sens en tout cas religieux du terme.
Le droit de grâce, c'est la suppression d'une peine, mais qui est maintenue sur le casier judiciaire.
Ça n'efface pas la peine.
Ce qui efface la peine, c'est l'amnistie. Et l'amnistie, étymologiquement, c'est l'oubli. Mais ce que vient de dire Massoud, c'est que le pardon, c'est individuel. Et ça, c'est le contraire de la loi. La loi, elle est universelle, justement. Oui. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas chez nous du tout cette notion de pardon, et que moi j'invite vraiment les auditeurs à aller voir votre film pour que jamais ici en France vous dites que là-bas, votre film a aidé à stopper ce jeu, et il faut aller le voir ici, parce qu'au train où vont les choses, on pourrait un jour y arriver chez nous aussi.
La télévision et la médiatisation donc de la justice est l'une des colonnes vertébrales de votre film, tout ou presque se passe dans ces studios, unité de temps, de lieu, d'action, filmé finalement, l'enjeu c'était de filmer une longue nuit où tout peut arriver avec beaucoup de rebondissements.
Oui, en fait, Yalda, d'ailleurs, il faut dire que c'est une fête pré-islamique.
Oui.
C'est une fête zoroastrienne que les Iraniens fêtaient depuis plus de 3000 ans. Et c'est le solstice d'hiver, c'est le début de d'hiver. Et le mot Yalda en perse antique veut dire la grande naissance. Donc il y a beaucoup d'espoir, parce qu'après cette longue nuit, la nuit la plus longue, il y a des nuits plus courtes et il y a l'arrivée de lumière et de printemps. Et je pense qu'il y a un contraste, comme l'histoire de ce film se joue beaucoup sur les contrastes, la fracture sociale, la grande guerre qui existe entre les deux personnages principaux féminins, qui viennent de deux couches différentes de la société. Et je me suis dit, ça va être plus intense si ça se joue aussi sur le fait que la nature de cette émission est tragique, avec la possibilité d'avoir ou de ne pas avoir le pardon à la fin. Et puis cette fête qui est très très joyeuse chez les Iraniens et très importante aussi.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est pas tant la culpabilité de Mariam que ce qui se passe en elle et entre elles, c'est-à-dire entre elles et la fille de la victime après ce mariage temporaire. C'est ça qui vous intéresse, c'est ce conflit intérieur.
Oui, en fait, pour moi, ce conflit intérieur était très important parce qu'on voit bien que Mariam, elle est arrivée dans cette relation un peu innocemment. C'était sous la pression de sa propre mère,
oui,
qui voulait à tout prix avoir une sorte d'ascension sociale pour sa famille,
ouais,
et elle a poussé sa propre fille dans les mains de ce vieux monsieur, et on voit de l'autre côté Mona qu'elle veut garder aussi son père pour lui.
Mona, c'est la fille de cet homme riche. Exactement. On va écouter un extrait qui est un peu le cœur de votre propos et qui se joue entre ce présentateur et ces deux femmes. On rappelle donc Mariam, cette jeune femme qui a fait ce mariage temporaire avec cet homme qu'elle a tué accidentellement, et la fille de cet homme dont on attend le pardon.
Vous imaginez un jour l'épouser ?
Absolument pas. Je l'aimais comme un père, je vous dis. Je la considérais comme ma grande sœur. Quand elle m'a proposé cet emploi, c'était le plus beau jour de ma vie. Je n'avais pas d'argent pour payer l'université. C'était formidable d'avoir un travail.
J'ai payé son université pour la voir progresser, comme une sœur. Je voulais la voir heureuse.
Je vous félicite, Madame Comidjani. Malgré la mise en garde de Madame Zia, pourquoi avez-vous épousé un homme plus âgé que votre père ?
Je ne voulais pas. Je n'étais qu'une employée sous ses ordres. Je faisais mon travail. Mais Nasser insistait, il m'offrait des cadeaux, il m'invitait au restaurant. Au début, je refusais. Et puis un jour, il m'a dit : je ne peux pas vivre sans toi, je suis amoureux de toi.
Il vous a demandé en mariage ?
Il a dit qu'il voulait demander ma main, aussi directement.
Étiez-vous au courant ?
Je veux écouter sa version. Elle semble précise. Que s'est-il passé ? Quelle a été ma réaction ?
Comment avez-vous réagi ?
Je lui ai interdit de venir pendant un mois. Je savais qu'elle était fascinée par la fortune de mon père. Je lui ai tout raconté, mot pour mot. Je n'ai rien dit à ma mère. Elle m'a dit de ne pas venir pendant un mois.
L'avez-vous écouté ?
Bien sûr que oui.
Et ensuite ?
C'était un mardi. Elle m'a déposé au métro et elle m'a dit : ne viens pas pendant un mois, mon père courtise toutes mes amies et il t'oubliera si tu ne viens pas. Moi j'ai obéi.
Par compassion, je l'aimais bien et encore aujourd'hui, mais elle n'a pas compris, ni à ce moment-là, ni maintenant.
Bon, Massoud Barchi, faut parler deux minutes quand même de ce mariage temporaire qu'on ne connaît pas chez nous et heureusement, qui peut durer, s'appelle Siguet hein, en farsi, c'est ça, qui peut durer d'une heure à 99 ans, qui, en fait, on parle d'une couverture religieuse à la prostitution, parce que les hommes peuvent contracter plusieurs mariages temporaires et pas les femmes.
En fait, ce mariage temporaire, ça a existé depuis l'arrivée de l'islam, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de guerres et les hommes il y avait beaucoup de morts et en conséquence beaucoup de orphelins. Oui, il y avait peu d'hommes.
Bon, ça
beaucoup
c'est l'histoire.
Mais ça c'est l'histoire.
En 2021.
Aujourd'hui,
les bonnes intentions, même. Oui. Dont on parle beaucoup.
Oui, c'est ça.
Ouais. Il faut dire aussi, il faut expliquer aussi des bonnes intentions.
Oui.
Mais aujourd'hui, en fait, c'est un mariage. C'est un mariage avec une durée déterminée, avec un contrat en fait dans lequel il faut l'épouse pour réclamer ses droits des signatures de ce contrat, qui peut être un bien ou une somme d'argent. Et s'il y a un enfant issu de ce mariage, c'est à l'homme, à l'époux, d'accepter la responsabilité.
Donc, problème justement dans cette affaire dans Yalda, le contrat était le suivant : tu n'auras pas d'enfant et elle a un enfant, ce qui crée toute la polémique, puisque l'enfant n'a pas droit à l'héritage. D'où tous ces enfants bâtards qui ne sont pas reconnus par des pères en Iran.
Exactement. En fait, on voit que dans le film, on a la fille de défunt, en fait, elle a demandé que Mariam n'a pas droit d'avoir un enfant.
Ce Mais qui tout ça, c'est pas... une question d'argent, en fait, Massoud.
Exactement. Ce n'est pas légal, en fait, cette demande. C'est elle, en fait, qui voulait, dès le début, arrêter ce couple d'avoir une relation permanente. Et je pense que c'est, pour moi, c'était très important quand j'ai compris que il y a seulement quelques années que le Parlement iranien passait une loi qui permet aux femmes sortant d'un mariage temporaire de garder les enfants, leurs enfants, avec leur propre nom, nom de famille, ce qui n'était pas avant possible. C'était quand même un changement révolutionnaire. D'où vient la fin de Yalda,
oui.
En fait, toute la bataille de Mariam pour garder cet enfant.
Ouais.
Et je pense que dans les grandes villes, c'est très rare, en fait, de voir le mariage temporaire. On voit dans le film que le fait que Mariam, elle vient d'une autre couche d'une famille,
oui.
De couche défavorisée. Et c'est sous la pression de sa mère qu'elle accepte ce mariage. Et même en acceptant ce mariage, elle dit « j'espérais qu'il devienne un jour un mariage permanent ».
En fait, c'est un CDD, quoi, comparé au mariage habituel qui est un CDI, quoi. Mais quand on parle de prostitution cachée, vous êtes d'accord avec ça
En fait, ce genre de mariage, on voit que ça existe un peu, comme tous les autres sujets, le thème de film, c'est un peu universel. Ça peut exister ici aussi, sauf que ici, c'est les intérêts financiers qui légalisent le mariage entre une jeune femme et un homme âgé mais riche.
Quand on passe par un mollah, il faut le payer.
Il faut payer pour signer un contrat de mariage. Et il faut dire que le mot ciré, c'est aussi pour la fiançaille. En fait, une fois qu'un jeune couple, ils veulent se marier avant le mariage, ils peuvent signer un contrat pour se connaître, ce qui est vraiment un fiançaille. Mais dans la société traditionnelle, comme la société iranienne, c'est pas acceptable qu'ils sortent ensemble sans signer le contrat de mariage permanent.
Laure Hennig, quand vous voyez tout ça, vous dites que vous êtes heureuse d'être une avocate en France.
Ah, en même temps, c'est un bonheur, là, cette espèce de multiplication des procédures, des choses. Pour un avocat, c'est formidable. Ça permet de passer des heures et des heures à plaider, si on en croit ce genre de choses.
Non, là, ça donne encore envie d'être féministe. Enfin, tous les débats en ce moment donnent envie d'être féministe.
Ouais.
Mais là, alors,
ouais.
Ce qui est étonnant, pourtant, dans votre film aussi, c'est que, y a des femmes qui ont le pouvoir. Il y a des femmes. Alors, c'est une femme, là, qui tue. Alors, elle tue pas de manière intentionnelle, mais enfin, quand même. Et puis, c'est une femme qui pardonne. Ce sont des femmes qu'on voit dans les studios aussi, enfin, alors qu'elles sont oppressées, opprimées, ce sont pourtant elles dont vous faites les héroïnes. Donc on peut espérer, du point de vue de l'avocat ou du citoyen, qu'il y a quand même un renversement qui s'annonce là aussi.
Oui, en fait, il n'y avait pas autant de femmes dans le scénario. Quand je me suis rendu en fait sur les vrais plateaux de télé, j'ai vu que la majorité des gens qui travaillent là-bas sont des femmes. Et j'ai changé ce détail dans le scénario. Là, maintenant, ça existe plus de 10 personnages féminins dans le film. Et ce qui est beau pour moi, c'est qu'à la fin, au départ, en fait, elles sont un peu, ils font une autre émission, comme un autre épisode, comme les autres émissions. Mais à la fin, elles sont tous réunies et solidaire pour sauver la vie de Mariam. Et ça vient de la réalité. Les femmes en ce moment en Iran, elles sont très très conscientes aussi pour réclamer leurs droits, en fait.
Oui, elles dépassent les archaïsmes de la loi, en fait.
Ouais. Et c'est peut-être elles qui vont faire évoluer ce pays.
Oui, c'est en fait comment expliquer que le fait qu'il y a plus d'étudiantes dans les universités que les étudiants. Et de plus en plus, les femmes qui travaillent, vous voyez, tous les techniciens presque de cette émission, ce sont des femmes. Et ça montre que c'est une société en évolution permanente dans un bon sens.
Il y a aussi une femme qui est un peu l'œil de Moscou quand même, qui vient en régie pour essayer d'atténuer un peu les débats. Elle, c'est l'œil du pouvoir, cette femme?
Oui, en fait, c'est la femme qui contrôle l'antenne. Et le si n'existait pas dans la première version.
Vous
ne
l'aviez pas imaginé
scénario.
Et puis vous l'avez rencontré. Vous l'avez rencontré.
Oui, exactement. C'est quelqu'un qui contrôle, en fait, le contenu de chaque émission. Et on voit d'ailleurs qu'elle est en contrainte, en fait, permanent avec le producteur. Parce que elle sait bien que si il n'y a pas de pardon à la fin, l'émission surtout parce qu'il y a une coïncidence avec la nuit de la fête de Yalda.
En Iran, comme partout, tout se paie, donc, et ces SMS qui permettent justement de payer le prix du sang extrait.
Je vous rappelle que, comme chaque semaine, vous pouvez participer par SMS au plaisir du pardon. Ceux qui pensent que Mariam Komidjani mérite le pardon, envoient le 1 au 30001. Ceux qui votent contre, envoient le 2. À la fin de cette émission, si le 1 dépasse les 5 millions, la moitié du prix de sang sera versée par nos sponsors à la famille de la victime. Si le 1 dépasse les 9 millions, ce sera la totalité. Mais venons-en au cœur de l'histoire vraie de ce soir. Restez avec nous.
Lorénic, le prix du sang en Iran, ça correspond presque à l'indemnisation en France des victimes, mais par l'État.
Oui, alors en France, l'État indemnise les victimes. Hein. On a ce qu'on appelle une commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Ça fonctionne très bien. Et donc, il y a ce paiement qui est fait par une instance extérieure, en réalité. Et là aussi, c'est la preuve qu'il n'y a pas de lien direct, en réalité. La justice médiatise, pour le coup, le lien entre les accusés et les parties civiles. Et la justice, alors ce qui est terrible dans cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est l'absence de sérénité, de dignité. Enfin, évidemment, la justice, c'est tout un cérémonial qui fait qu'on peut juger avec de la distance, en faisant attention à ce qu'on ne soit pas pris par tous ces biais, en fait, qui peuvent biaiser justement le jugement qu'on puisse avoir, alors qu'ici, on est vraiment dans un show, dans un spectacle, enfin, poussé à outrance.
Mais Massoud Barchi, la télévision est un vrai outil politique en Iran. Juste avant de commencer, je vous parlais de ces aveux forcés à la télé de Navid Afkari, ce manifestant qui était accusé d'avoir tué un fonctionnaire, un lutteur assez connu en Iran, et qui a dû avouer à la télévision devant des millions de spectateurs.
Oui, en fait, moi personnellement, quand j'ai entendu l'exécution de cette personne,
il a été exécuté le 2 septembre.
J'étais très 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 touché parce que j'attendais pas. En fait, je pensais que après il y a une grande partie de vérité qui nous échappe parce que entre les propos des avocats et puis les médias un peu officiels, on se perd facilement, on connaît pas vraiment ce qui s'est passé. Mais dans les extraits de mon film, justement, ça c'est un détail que j'ai changé dans l'émission. Ce genre d'SMS, ce genre de course ou de compétition pour voter contre ou pour le pardon, ça n'existe pas dans la vraie émission, mais j'ai ajouté, en fait, c'est un détail fictif ou surréaliste qui rend le film un peu comme un film science-fiction. Mais je pense que je peux exagérer, j'ai pensé que je peux exagérer pour montrer que comment c'est délicat et on peut pas mettre en scène comme un spectacle quand on parle de la vie ou la mort de quelqu'un.
Sur la médiatisation de la justice, on va faire un petit épisode français. Notre nouveau ministre de la justice, ex-maître Dupont-Moretti, propose, lui, Lorénic, une justice filmée en France et diffusée. On est très loin, bien sûr, de cette télé iranienne, mais il y a une bronca contre cette proposition.
Oui, alors, dans l'idée, moi, c'est une bronca que je ne comprends pas. La justice a par principe la publicité des débats. Donc, normalement, vous pouvez précisément rentrer dans les salles d'audience, pouvoir savoir comment cette justice est rendue, parce qu'elle est précisément rendue au nom du peuple français.
Sauf si le huis clos est décidé, ce que la Cour peut faire.
Ce que la Cour peut faire, enfin en certaines matières seulement, ouais. pour les mineurs, pour les affaires de mœurs. Ouais. Sinon, vraiment, c'est un principe qui est intangible, la publicité des débats. Or, aujourd'hui, le tribunal se trouve au fin fond du 17e arrondissement avec beaucoup de difficultés pour pouvoir s'y rendre. Les salles d'audience sont tout petites. Là, il y a le procès de Charlie en ce moment, enfin des attentats de 2015. Et pour se rendre dans ces salles d'audience tout petites, évidemment, il faut une accréditation. Enfin, tout le monde ne peut pas y aller. Ils ont délesté une autre salle, là aussi, c'est assez compliqué pour s'y rendre. Donc, si vous voulez, alors ce procès-là, de manière exceptionnelle, a été filmé pour l'histoire, mais je ne comprends pas la difficulté qu'on puisse émettre l'idée que la justice puisse être filmée. Alors, aux États-Unis, il y a même des chaînes dédiées. Oui. En réalité, vous pouvez aller Canal 24, vous tombez sur les comparutions immédiates ou sur telle ou telle affaire criminelle. C'est peut-être un peu excessif parce que c'est en direct, ça peut se débattre. Moi, ce que je querelle là, dans la proposition d'Éric Dupond-Moretti, c'est que nos magistrats n'ont même pas les moyens de s'acheter des codes à jour. Ils n'ont aucun moyen pour s'acheter des post-it, des stabilos. Enfin, quand on voit la misère de la justice, on se dit bon, voilà, on va quand même pas. On voudrait plus de magistrats pour une justice bien plus sereine. Et puis on verra plus tard pour mettre de l'argent dans les vidéos. Et ce qui me fait peur aussi, c'est que ce qu'on développe, ce soit la visioconférence, parce que quand on parle aussi de médiatisation, de mettre des caméras et de la distance, c'est ça aussi, c'est de laisser les gens chez eux ou dans leur prison pour que justement ils ne viennent pas faire face à leurs juges pour ne pas encombrer les tribunaux, et puis qu'on se voit par le biais d'un écran.
Ce qui s'est passé à cause du coronavirus.
Voilà, et puis bien sûr, à chaque fois on nous dit, mais c'est juste temporaire, hein, oui, comme les mariages en Iran. C'est juste temporaire, et puis ça va s'arrêter, et puis finalement, quand les puissants ne veulent pas, ça ne s'arrête pas.
À votre avis, il y a quoi derrière la tête de Dupond-Moretti de proposer ça? Il y a quoi comme... quelle ambition.
On en dit assez sur lui, mais là, c'est quand même un petit peu spectacle, quand même. Quoi. Oui. Que peut-il annoncer? De toute façon, il a un an devant lui. Pour l'instant, toutes ces mesures... Enfin, il a quand même réussi à faire une première loi qui était inconstitutionnelle. Il fallait le faire, hein, trop répressive pour un avocat pénaliste. Alors, peut-être qu'il se rattrape un peu en essayant d'avoir des propositions qui pourraient être concrètes dans ce délai-là, mais je ne crois même pas.
Votre film Yalda aussi, Massoud Barchi, est aussi un film politique sur la différence entre les riches et les pauvres. Il y a deux justices différentes.
En fait, oui, la fracture sociale, c'est le corps de ce film. Ouais. Et d'ailleurs, le fait qu'il a été bien reçu aux États-Unis ou bien en Europe, les gens, c'est un film qui peut parler avec plusieurs peuple, malgré les barrières de la langue ou de la culture, c'est que cette fracture sociale, ça existe un peu partout. Mais dans le film, on voit bien qu'entre Mariam et Mona, il y a énormément de différences d'âge, de la culture, mais aussi de la classe sociale. Et c'est ça qu'à la fin, ça devient vraiment une guerre. Et pour Mona, c'est presque impossible de pardonner Mariam parce qu'elle ne veut pas accepter qu'elle entre dans sa famille.
Oui.
Je pense que malheureusement, ça existe, cette fracture sociale, et c'est résumé dans la scène d'accident avec le motard dans le film. Oui.
Laurénique.
Oui, sur la fracture sociale et puis la justice de pauvres et de riches. Vous voyez, si les gens avaient accès à la justice en France, ils verraient à quel point en France, on a aussi une justice de classe, une justice pour les pauvres, pour les riches. Que vous soyez jugé en comparution immédiate en 20 minutes à la 23e chambre du tribunal correctionnel parce que vous avez volé un pull, parce que vous avez volé une pomme et que vous vous retrouvez en prison pour 6 mois. Alors que pour tous les délits de presse, par exemple, on peut avoir 5 heures, 6 heures d'audience, on peut avoir des témoins. Enfin, c'est cette justice-là qui prend son temps. Et tant mieux, je veux dire, c'est pas celle-là que je critique. Je critique qu'on puisse pas faire entendre un seul témoin quand on risque des années de prison. Et tous les jours, il y a des gens qui partent en une demi-heure pour des années de prison. Et là, on se dit, mais en fait, ce sont les pauvres qui partent. Et ça, ce serait pas mal que les gens puissent l'entendre.
Je reviens à la médiatisation de la justice et traiter au cinéma. Comment vous trouvez, vous avez dû voir vous-même des films de procès
de Pardon, par exemple.
Alors, très, très intéressant exemple, justement, de Pardon. Lui qui a accès à certains lieux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Mais je crois que tous les avocats vous diraient, mais en fait, ça nous rend dingue. Parce que qu'est-ce qu'elle est bien rendue, en fait, cette justice-là, dès qu'on y fait rentrer les caméras. Donc c'est pour ça aussi, vous voyez que je suis pas contre. Parce que là, d'un seul coup, tout le monde se tient. Tout le monde fait des efforts des efforts intellectuels quand même, alors qu'on a l'impression que c'est une justice d'abattage sinon. Je critique personne, je veux dire chacun fait comme il peut et les avocats sont pas meilleurs que les autres là-dedans, mais il y a une misère qui fait peut-être plus d'efforts quand elle est sous l'œil du public.
Massoud Barchi, votre film précédent, Une famille respectable, vous avez été inquiété sur ce film. Vous avez reçu des menaces. Vous avez.
En fait, ils l'ont pas montré, et j'attendais pas qu'ils vont plus loin. Mais j'ai vu que il y avait beaucoup de journalistes qui insultaient pas seulement le film, mais aussi le et moi. Ils sont allés vraiment loin. Mais j'ai mis en fait le temps d'oublier toutes ces années, et ça, déjà c'est 8 ans qui est passé. D'où vient en fait l'idée de Yalda? Oui. Ouais. C'était en 2012.
Oui.
Yalda, il parle de pardon, et justement le fait que je voulais absolument le sortir dans mon pays avant de sa sortie en Europe, c'était vraiment pour moi important de pouvoir le montrer en Iran. Et on était heureux vraiment d'avoir le visa d'exploitation. Le film est sorti dans un temps dur, juste après le confinement, au mois de juin. Et on a annoncé qu'on donne tous les revenus de cette sortie pour libérer deux condamnés à mort. Et c'était grâce à une ONG iranienne, gérée par les femmes, pratiquement, très courageuse, qui allait dans les villes et même dans les villages lointains pour chercher les familles de victimes, de parler avec elles et d'essayer de convaincre que l'exécution n'est pas une solution. Et c'est elles qui m'ont présenté deux cas, et grâce à la campagne qu'elles ont fait pour le Yalda, on a réussi à sauver deux personnes.
Expliquez-moi, en Iran, comment ça se passe? On comprend pas bien. Parfois, il y a des metteurs en scène qui peuvent pas tourner. Il y en a qui sont emprisonnés. Il y en a qui sont qui doivent rester à leur domicile. Vous pouvez tourner. Comment ça? Je trouve ça troublant.
Oui. En fait, il y a des règles précises, mais après, il y a toujours une voix. En fait, il y a des exceptions.
Oui, qui confirment la règle.
Évidemment, c'est un peu comme la langue française.
Pourquoi Panahi peut pas tourner et vous pouvez tourner, par exemple?
En fait, quand on est impatient, on peut tourner un peu sans autorisation. Après, une fois qu'un film est tourné sans autorisation pour le tournage, c'est sûr qu'il n'aura pas d'autorisation
oui,
ou de visa d'exploitation.
Mais de toute façon, il n'a pas le droit de tourner, Panahi, il n'a pas
oui,
le droit.
Oui, mais il tourne. C'est ça qui est fascinant, ou bien pas explicable. Moi, je voulais absolument montrer le film. Donc, je savais que j'ai besoin de visa d'exploitation. Donc, j'ai attendu, qui était une attente quand même longue, 8 ans entre mon premier film et ce deuxième film. Et j'ai eu finalement les autorisations pour le tournage. Et c'est grâce à ces autorisations que le film pouvait être sorti, en fait. Mais après, c'est quand même bien qu'il y a des collègues comme Panahi qui tournent, qui n'arrêtent pas à tourner.
Vous restez avec nous, bien sûr, tous les deux, Massoud Barchi et Laure Nick. On rappelle la sortie de ce film, Yalda, la nuit du pardon. Mercredi prochain, on se retrouve pour les sorties après Fontaine d'ici. Sugar, just dying for it. sorties, Laurent, on va commencer par Un pays qui se tient sage de David Dufresne, un titre inspiré bien sûr de cette phrase, une classe qui se tient sage, prononcée par un membre des forces de l'ordre pendant l'interpellation des lycéens de Mantes-la-Jolie, à genoux, les mains sur la tête, le 6 décembre 2018, image brute et choquante, comme toutes celles qui émaillent le film et collectées lors des manifestations des Gilets jaunes, que David Dufresne, en cadre de commentaires, de réflexions sur l'État et l'usage de la violence, un décryptage de l'info avec des sociologues, historiens, avocats, un général de gendarmerie des Gilets jaunes, bien sûr, et dont on ne découvre l'identité qu'à la fin. Là, c'était un petit problème, je trouve.
Ah, pour moi, c'est un gros problème, parce que c'est curieux quand même de dénoncer l'hypocrisie d'État et gouvernemental, et je dirais pas d'y tomber dedans, mais pas loin, avec ce procédé qui est extrêmement artificiel. Il y a quand même une vieille question militante récurrente, qui parle et de quel endroit, hein. C'est pas une question neutre quand même de savoir qui parle et au nom de quoi, de quelle culture, de quelle classe sociale, de quelle formation. Or, Dufresne, en ne bantitrant pas, comme on dit, c'est-à-dire en ne mettant pas effectivement la qualité des intervenants et leur nom, nous plonge, nous spectateurs, dans un état qui est très pénible, c'est-à-dire en permanence, on se dit, alors lui, ah oui, il est peut-être avocat.
Il y en a qui sont assez évidents à décrypter.
Il y en a qui sont, mais bien sûr, oui, bien sûr, certains avocats, des universitaires. Et comme par hasard, le seul qui éructe, c'est un flic. Bon, ça, justement, ça entraîne
ce genre.
Je pense
qu'il n'a pas pu en avoir d'autres, hein.
Oui, c'est vrai, mais quand même, on se dit, ça entraîne à la caricature et surtout, ça entraîne à cette interrogation permanente durant le film de savoir qui parle. Et alors, nous, les journalistes, on a eu le privilège d'avoir un dossier de presse, on peut s'y référer. Et savoir, on a la liste des noms, les spectateurs n'auront qu'un défilé de noms et de photos à la fin du film. Je trouve ça vraiment dommage sur ce que ça dit. C'est dommage parce que il y a une vraie question, il y a un vrai questionnement. Ah oui. Mais je pense que le film aurait vraiment gagné à de la clarté, à de l'intelligence et à du vrai débat démocratique si on n'avait pas procédé de la sorte.
En même temps, ces documents ressortent vraiment bien sur grand écran, quoi. Tout ce qu'on a pu voir défiler sur les petits écrans d'ordi ou autres, tout d'un coup, on les prend en pleine gueule.
Oui, je suis pas sûr que les mauvaises images des téléphones deviennent bonnes sur grand écran. Mais enfin, c'est une autre,
voilà,
un autre débat.
Du relais. Voilà. Autonome de François Bégaudeau, une dizaine de portraits d'habitants de la Mayenne et alentour, des gens parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, de pensée, de croyance, de soins, en rupture avec les manières certifiées conformes.
Mais quel bric-à-brac, parce que ça mêle quand même des éléments parfaitement épars, hein, c'est-à-dire effectivement des gens qui essayent de vivre sans eau, sans gaz, sans électricité au fond d'une caverne, et puis des bonnes sœurs qui vivent en autarcie, mais elles bénéficient, elles, du réseau électrique. On dira jamais assez le bienfait du réseau électrique national, hein. Bon, donc quel rapport aussi avec la communication, avec les morts, dont on parle à un moment dans le film, mais pas grand-chose. Et puis alors, au milieu du film, coule, si je puis dire, le portrait récurrent d'un homme des bois, mais qui s'avère être un acteur. Alors du coup, effectivement, là, on a de la fiction qui vient s'insérer dans ce qu'on le croit être jusqu'à présent uniquement du documentaire. Cette espèce de fiction interne, vous savez, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, eh ben, ça parachève l'impression de grand malaise, de choses désordonnées que procure en permanence ce documentaire, qui est pas forcément une bonne pierre dans ce combat-là.
La femme qui s'est enfuie du Coréen Aung San Suu avec sa muse Kim In-hee. Alors, elle s'appelle Gam Yi, donc, elle est mariée, apparemment heureuse, on a du mal à le croire tellement elle le répète, elle n'a pas quitté son mari une journée pendant 5 ans. Ses amis vont se confier et lui ouvrir peut-être d'autres horizons. Une première récemment divorcée a quitté Séoul, la deuxième s'est acheté un bel appartement, elle est célibataire, la troisième en couple avec un cinéaste, autrefois l'amant de Gam Yi. Et sous ces conversations, des amours déçus, des vies solitaires et un rapport de sororité où la vérité apparaît quand on s'y attend le moins.
Mais ce sont les hommes, en fait, qui sont d'abord enfuis de ce film. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant, parce que ils sont ici des fantômes, hein, des revenants, des souvenirs, et surtout des êtres absolument falots et faibles. Et cette espèce de montée dans le cinéma d'Aung San-Suu, de la figure féminine, à travers, vous le disiez, son actrice, son égérie, qui est aussi sa compagne dans la vie privée, c'est tout à fait saisissant. Ça donne des films, à mon sens, de plus en plus mélancoliques, de plus en plus désenchantés, mais à ce désenchantement, à cette mélancolie, ben, Aung San Suu oppose tout simplement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire une croyance infinie dans ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire un théâtre d'ombre, oui, mais d'ombre bien vivante.
Un portrait absolument magnifique et remarquable, c'est Billy de James Erskine. Billy Holiday, bien sûr, l'une des plus grandes voix de tous les temps. Une journaliste voulait faire son portrait, a recueilli 200 heures de témoignages incroyables. Elle est morte dans des conditions un petit peu obscures, cette femme. En fait, c'est l'histoire de deux destins parallèles, presque, ce film.
Absolument, c'est ça qui en fait... je dirais encore plus son prix et son poids, parce que le seul portrait de Billie Holiday suffit, hein, battu, drogué, spolié, miné par une maladie de cœur, enfin vraiment avec obligé de se noircir le visage, ouais, pour rentrer fou. Sur scène, parce qu'elle n'était pas assez noire pour les canons racistes de l'époque, il faut le dire. Voilà.
Ou obligé de dormir dans un bus pendant que les hommes de la troupe dorment à l'hôtel.
Exactement, ou interdite de WC sur une tournée parce que c'est une femme noire. Enfin voilà, donc tout ça se suffit évidemment à soi, mais il y a cette histoire parallèle de journaliste, elle aussi empêchée quelque part, comme on dit, de faire son métier. Donc ces deux destins parallèles de femmes est tout à fait passionnant à suivre, avec des témoignages quand même, Charlie Mingus, Sarah Vaughan, voilà. Mais et puis la voix de Billie Holiday, bien sûr.
Quagillionnaire, c'est le retour de la réalisatrice américaine Miranda July. Donc avec ce drôle de film, Teresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Old Dolio, elle s'appelle, à escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion au cours d'un cambriolage conçu à la hâte. Il propose à une jolie inconnue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant l'ordre et la routine. C'est une famille sortie de nulle part, des petits fraudeurs à Los Angeles qui dorment dans un open space dont les murs crachent de la mousse rose qu'il faut sans cesse éponger. On n'en est pas à une folie près, avec ses parents apparemment doudingues, mais dont on va découvrir la monstruosité grâce à ce nouveau personnage, Mélanie, qui va offrir d'autres horizons à cette fille maltraitée. Une histoire d'émancipation, d'abord burlesque, absurde, bricolée, et qui va peu à peu entrer dans le dur des sentiments, sans toutefois tomber dans la mièvrerie, et heureusement se rattraper sur la fin. Quagillionnaire, porté par trois remarquables acteurs, Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, et la méconnaissable Debra Winger. Un petit rappel sur Joseph Laurent, qui sort vraiment cette semaine, on avait reçu Aurel la semaine dernière.
Ce très beau film d'animation qui se déroule il y a 60 ans, mais il y a 60 ans aussi, résister, vivre et témoigner par le dessin, tiens, ça nous rappelle des choses qui se passent aussi maintenant en France.
Ida Lupino, rétrospective en quatre films, pionnière du cinéma indépendant américain, une œuvre rare et méconnue, Laurent.
Oui, parce que de 1949 à 1953, celle qui était une actrice réputée, qui avait tourné avec les plus grands, s'est transformée en réalisatrice pour au total 6 films, on peut en voir 4, et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des films qui sont vraiment engagés dans la société américaine de l'époque. L'un parle de l'avortement, l'autre du handicap, le troisième de viol, et puis un film de genre, un film de serial killer. C'est quelqu'un, Ida Lupino, qui disait, j'ai sans doute inventé la nouvelle vague sans le savoir.
Les 3 jours du Condor, grande reprise Sydney Pollack de 1975 avec Robert Redford. C'est d'ailleurs Redford qui a contacté Pollack pour le réaliser. C'est un cinéma qui s'interroge sur les institutions américaines. C'est le thriller politique des années 70. Un homme ordinaire voit vaciller ses convictions profondes. Remarquable film de Sydney Pollack.
Comment ne pas craquer devant le caban de Robert Redford, désormais mythique sur son Solex. C'est une figure mythique. On comprend pas grand chose au film. Il faut dédouaner les gens en sortant. On n'avait pas forcément compris ce qui s'est passé. Mais c'est un film formidable.
Et on va passer au cadeau pour les invités.
Mais oui, alors pour vous, Lorénic, on a choisi un coffret de 3 films d'Abbas Kiarostami. Vous ne vous en voulez pas, Massoud, hein, c'est quand même le dieu de tutélaire du cinéma iranien depuis des années. 3 films qui font partie de cette trilogie dite de Cocker, c'est pas comme ça que lui l'appelait. Cocker, c'est le petit village iranien du nord où se situent ces 3 films, Où est la maison de mon ami et La vie continue et Au travers des oliviers, avec des bonus menés notamment de main de maître par Alain Bergala. On y entend aussi à plusieurs reprises la voix et l'image de Kiarostami. Bref, c'est un très beau coffret édité par Potemkin et qu'on est très heureux de vous offrir, Lorénic, si vous ne connaissez pas ces 3 films. Vous allez vous régaler comme nous, évidemment, on le suggère à nos auditeurs en même temps. Alors pour vous, Massoud Bakshi, un livre, les 50 règles d'or de l'éloquence, fait notamment par Lorénic, aux éditions Larousse. On a adoré ce petit livre.
Je peux lire un extrait, oui. L'éloquence médiatique. Alors, la question posée par le journaliste importe peu, faites mine d'y répondre et venez-en immédiatement à votre propos. Vous pouvez même même écarter poliment la question ou décaler votre réponse. Je voudrais d'abord dire, voilà. Donc on vous offre.
Voilà, ça c'est fait, le Rénique. Donc vous avez fait ça pendant l'émission. On est au courant. Bah, et puis le
que j'ai écrit avec mes trois associés.
Oui, pardon.
Si je peux dire, Clotilde Petit, Karine Bourdier et Dorothée Bizassia Bernstein.
Oui.
Merci pour elle. Et puis on complète ce livre par un coffret, un chef-d'œuvre du cinéma français, Le Trou de Jacques Becker. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu.
Je l'adore.
Ah bon, bah, tant mieux. C'est une très 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 belle édition avec un livret consacré au film, des heures de bonus pour revoir et voir chez Studio Canal ce film qui est entre Bresson et Melville, pour aller très vite, mais c'est vrai que c'est le dernier film de Becker et c'est étourdissant de brio et de virtuosité.
Un grand merci à nos voix d'Inter qui ont doublé les extraits de votre film Yalda, qui sort mercredi prochain, Massoud Marchi.
Et qu'il faut aller voir.
Ophélie Vivier, Sarah Guibaudot et Éric Lenné. Allez voir ce film, donc, Yalda, La Nuit du Pardon, mercredi prochain. Merci beaucoup, Laure et Nick, d'être venu encadrer ce beau film. À bientôt, on vous laisse les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Georges Delerue a écrit les musiques du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Magère s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi,
Laure Hennick, j'y étais.
Et moi, Massoud Barchi, j'y étais.